De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité.
Merci, on va se courber ensemble dans une autre prière. Oui, Seigneur, lorsque je vais me retrouver dans ta présence, comme nous l'a lu, comme nous l'a chanté Pamela, Seigneur. Enfin, Seigneur, enfin. Toute ta création, toute ma vie, tout cet univers va trouver son sens. Et mon cœur va être dans une paix, Seigneur. Et tout cela, parce qu'un jour, tu es venu vers nous, frapper à la porte de nos cœurs. Tu es venu sur cette planète, marcher parmi nous, pour nous interpeller, nous inviter. Et tu es venu donner ta vie pour nous. Je te demande de nous bénir ce matin alors que nous nous penchons sur ce texte. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de notre cœur, viens ouvrir notre intelligence et que ces paroles ne soient pas que paroles d'hommes, Seigneur. Mais que ce soit une œuvre de ton esprit dans nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que je te demande. Amen. Amen. Excusez-moi, je vais m'installer vite, vite, vite. Matthieu 13, on arrive dans une section de l'Évangile de Matthieu. Ceux qui ne sont pas avec nous régulièrement ont besoin de savoir que nous sommes en train de passer à travers le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, tranquillement. Et souvent, Matthieu, il y a un plan très, très clair qui est facile à suivre. On arrive dans une section où c'est comme si la structure n'est pas claire, mais en même temps, il y a une chose qui est très, très claire. Il y a une chose qui ressort très clairement. Plus les chapitres vont avancer, plus les camps vont se démarquer. Ceux qui ont choisi de croire en Jésus-Christ et ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ vont se démarquer de plus en plus nettement, de manière de plus en plus agressive même, et ça va devenir frappant. Dans le passage de ce matin, nous allons voir ensemble que Dieu désire avoir une relation avec nous. C'est ce que j'ai vu dans cette visite de Jésus dans son village natal. Dieu désire avoir une relation avec nous. Et il le désire tellement. Il désire tellement cette relation qu'il est venu vers nous, non seulement comme un esprit, mais comme un homme. Parce que pour nous, c'est abstrait, Dieu. Mais il est venu comme un homme. Marcher parmi nous, vivre parmi nous, nous rencontrer, parce qu'il désire cette intimité, cette communion avec chacune de ses créatures. Maintenant, on va voir aussi dans ce passage-là que Jésus ne forcera jamais cette relation. Jésus ne forcera jamais cette relation avec nous. Il ne l'imposera jamais si nous ne sommes pas prêts à croire en lui, si nous ne sommes pas disposés à aller vers lui. Il va respecter ce choix. Pourtant, Dieu est venu vers nous. Alors, Dieu désire cette relation, il désire entrer en communion personnelle. Il veut devenir un ami intime. Rappelez-vous, on a vu ensemble dans Matthieu 12, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Non seulement Jésus est venu vers nous, mais il dit, « venez vers moi si vous êtes fatigués. La vie est lourde, la vie est difficile, vous êtes épuisés, il y a du stress, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Viens à moi. » Viens me voir. viens me confier cela. C'est l'appel de Dieu pour nous. Dieu désire entrer en communion avec nous dans une relation intime, c'est son appel. Des fois, on pense à Dieu, puis on dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut? Tu regardes ta vie, ce qui est en train de se passer dans ta vie, des circonstances, des événements, des difficultés, des obstacles. Tu penses à Dieu et tu dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Dans toutes ces circonstances-là, il y a une réponse qui demeure dans tous les cas. Dieu veut que tu viennes à lui. Quoi que ce soit qui est en train de se passer dans ta vie actuellement, quel que soit le bouleversement dans ta vie, lorsque tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il me veut? Je peux te donner au moins une réponse, certaine. Dieu veut que tu viennes à lui dans ces circonstances-là, que tu viennes le rencontrer. Ça fait partie du message qu'il est en train de te lancer, c'est sûr et certain. C'est le désir de Dieu dans tout ce qu'il fait envers nous, constamment. Il désire cette intimité avec nous afin que nous trouvions le bonheur. Lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Ne le cherche pas ailleurs, ne cherche pas cette paix ailleurs. Viens à moi pour être heureux, pour trouver le bonheur, pour trouver la vie abondante. » Et c'est ça qu'il est en train de nous offrir. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Écoutez bien ce qui suit. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » C'est ça que Dieu est venu nous offrir à travers la personne de Jésus-Christ. C'est une vie abondante. C'est une vie de joie, c'est une vie de paix, c'est une vie d'espérance. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons en communion avec Dieu, en communion avec lui, afin que nous y trouvions le bonheur, afin que nous trouvions en lui une vie abondante. C'est quoi la vie abondante? C'est la vie remplie des fruits de l'Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient et œuvre en toi et que ses fruits commencent à émerger de ton cœur, à se placer dans ton cœur, à devenir ton rythme de vie, la paix, l'espoir dans les moments de désespoir. Le calme dans les moments de trouble. La joie là où il ne devrait pas y avoir de joie. L'espérance dans les moments de désespoir. Mais la paix, je pense. La paix plus que tout, à cette époque, dans ce moment, de savoir que Dieu est là, il veille sur moi et qu'il m'aime et qu'il prend soin de moi. Maintenant, une relation avec un pur esprit, c'est un peu abstrait, non? Dieu. La majorité des Québécois croient en Dieu, hein? Dieu. Un esprit. C'est flou, c'est vague. Pas très, très concret. C'est difficile d'entrer en relation avec un esprit. En tout cas, pour moi, c'est abstrait. Mais il me semble que si ce Dieu-là, je pouvais le voir, prendre des enfants dans ses bras. Il me semble que si ce Dieu-là, je pouvais le voir pleurer. Il me semble que si ce Dieu-là, je pouvais le voir prendre un repas avec ses amis. Ah, il me semble que là, je pourrais commencer à m'identifier avec ce Dieu. C'est ça que Dieu a fait lorsqu'il est venu vers les hommes dans la personne de son Fils. C'est exactement ça qu'il a fait. Dieu qui tient tellement à cette communion avec nous, nous connaît. Et il sait que c'est abstrait, à quelque part pour nous, un esprit. Alors, il est venu vers nous, il est venu nous rencontrer dans la personne de son Fils, Jésus-Christ, afin que cette relation soit tangible pour nous, qu'on puisse le voir, qu'on puisse lire et voir ses rencontres avec ses amis, ses repas. Jésus qui est en train de pleurer sur la mort de son ami Lazare, Jésus qui pleure sur la ville de Jérusalem, Jésus qui souffre. Il y a quelque chose d'humain, qu'il y a quelque chose de vrai pour nous, qu'il y a quelque chose de tangible pour nous. On lit dans l'évangile de Jean, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole a été faite chair. Dieu, au début, dans la Genèse, crée par sa parole. Dieu est là, il crée par sa parole. Dieu, par sa parole crée, dans Jean, il nous dit, « Cette parole a été faite chair. » Dieu a décidé de mettre de la chair et des os sur cet esprit. C'est Jésus-Christ, cette parole, qui est venu vivre et marcher parmi nous, afin que ça devienne plus concret pour nous. On a vu ensemble, dans le début de l'évangile de Matthieu, Jésus est appelé aussi, non seulement la parole dans Jean, mais Emmanuel dans Matthieu. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu parmi nous. C'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus, c'est cet esprit abstrait, peut-être distant, inconcret pour nous, qui vient Emmanuel parmi les hommes. Et c'est pour ça que tellement de chrétiens ont plus de facilité à s'identifier à Jésus. Il me semble que là, il commence à avoir quelque chose, quelqu'un qui peut me comprendre, quelqu'un qui est passé par là où j'ai passé. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus-Christ qui vient parmi nous. Alors, dans le passage de ce matin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Emmanuel débarque à Nazareth. C'est ça qui se passe. Dieu arrive à Nazareth. Emmanuel débarque à Nazareth dans ce passage. Il arrive au village. Et maintenant, c'est le petit gars du village, mais en même temps, ce n'est plus le petit gars du village. Vous savez que c'était la patrie de Jésus, Nazareth. Mais lorsqu'il revient, sa réputation le précède. Son ministère est immense en Israël. Il est connu partout en Israël. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît la sagesse qui émane de cet homme-là. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est parole de Dieu pratiquement. Même pour ceux qui n'ont pas saisi, il y a quelque chose à saisir. Même pour ceux qui n'ont pas compris, il y a quelque chose qui sort de sa bouche. Une sagesse divine qui est hors de nature, qui est extraordinaire, qui est incompréhensible dans sa portée, dans sa grandeur, dans sa beauté. Et c'est pour ça que tant de Québécois, tant de gens disent « Ah, un jour, j'aimerais ça lire la Bible. Il faudrait que je la lise au moins un jour. Il y a une sagesse millénaire là-dedans qui dépasse les temps, qui dépasse les siècles. » Mais quand Jésus ouvrait la bouche, c'est ça qui sortait. Sa réputation le précède lorsqu'il revient au village. Les gens ont entendu parler de lui. Il fait des miracles comme aucun prophète avant lui. Israël avait vu des prophètes, plein de prophètes. Jamais une telle concentration de miracles dans le ministère d'un seul homme. Toutes les sortes de miracles, toutes les formes de miracles, à travers ses mains, à travers sa bouche, étaient en train de se passer. Alors, lorsqu'il arrive au village, bien, il ne revient pas comme juste le petit gars du village qui s'en va visiter ma tante puis mon oncle, puis... C'est pas juste ça. Il s'en va à la synagogue. C'est le docteur maintenant qui arrive, celui qui enseigne partout en Israël. Alors, il s'en va à la synagogue et puis il commence à enseigner. Les gens sont vraiment impressionnés. Ils n'en reviennent pas d'entendre cet homme-là enseigner. Jésus est à la hauteur de sa réputation, c'est ce qu'ils remarquent. Ils avaient entendu parler de son ministère parce que sa réputation maintenant le précède partout en Israël. Mais lorsqu'il arrive chez eux, il commence à enseigner. Regardez ce qu'il dit au verset 54. Dans Matthieu 13, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient dans l'étonnement. Ils étaient étonnés. Il est à la hauteur de sa réputation. Waouh, mais d'où ça vient tout ça? Jésus ne déçoit pas ici, là. Ils sont troublés. Ils sont troublés de voir ce qui est en train de se passer. Et bien qu'il nous ait dit dans le passage qu'à cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles, il a fait quand même quelques miracles là. Il confirme encore une fois toute sa réputation. Jésus fait des miracles, il fait des choses extraordinaires. Il y a quelque chose qui se passe avec cet homme-là. Ça ne fait aucun doute. Ils étaient dans l'étonnement. Maintenant, les gens du village, plus que n'importe qui d'autre en Israël, ont vraiment des raisons d'être étonnés. Jésus est vraiment né. C'est un personnage historique qui a joué avec leurs enfants dans la ruelle. D'accord? Alors, lorsqu'ils l'entendent enseigner, ils disent, « Attends un petit peu, là, c'est lui qui joue au soccer avec mes enfants dans le cours en arrière? » C'est quoi qui se passe avec lui? Et là, les gens du village commencent à jaser ensemble, commencent à se parler. Ils disent, « Attends un peu, là, c'est le petit gars de Marie et de Joseph, ça. J'allais à l'école avec son petit frère Jacques. C'est quoi qui se passe avec lui? » Ils sont troublés dans leur cœur de voir que cet enfant-là, qui était un homme tout à fait ordinaire à leurs yeux, est en train de parler avec autant de sagesse, avec autant de grandeur, est en train de faire des miracles. Ils le connaissaient, alors ils ont de la difficulté à comprendre ce qui s'est passé avec lui. Jésus était le fils d'un charpentier. Puis maintenant, il parle avec une sagesse qui vient d'ailleurs. C'est troublant. C'est troublant. Quelque chose de pas normal qui est en train de se passer ici. Les gens l'avaient connu et ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, je fais une pause. De toutes les personnes qui vivaient à l'époque en Israël, s'il y a une place, un groupe d'individus qui aurait dû rendre un puissant témoignage à Jésus-Christ, ce sont les gens de son village. Ces gens-là, plus que n'importe qui d'autre, pouvaient témoigner et dire, il y a quelque chose de spooky qui se passe ici. Oh, c'est weird, je vous le dis. C'est pas une magouille. C'est pas arrangé. Ce gars-là, c'est le fils du charpentier. Il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas supposé connaître tout ça. Il n'est pas censé posséder toute cette sagesse. Il n'est pas censé connaître les Écritures comme ça. On peut en rendre témoignage. Ce n'est pas un gars qui a été formé dans les plus grandes universités pendant 20 ans, puis qu'on sort de la poche en arrière, puis on dit, « Tadam, regardez, c'était juste un fils de charpentier. » Non, non, les autres le savent, ils l'ont vu. Ils le reconnaissent de leurs yeux. Ils sont capables de l'identifier. Ces gens-là auraient dû être capables d'identifier Jésus. Ils pouvaient témoigner de cela. Ils pouvaient témoigner qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait. C'est un peu comme l'histoire qui nous est racontée dans l'Évangile de Luc. Lorsque Jésus, à 12 ans, va au temple à Jérusalem avec ses parents, tout ça, et puis bon, ils font ce qu'ils ont à faire à Jérusalem, et puis lorsqu'ils viennent pour partir, c'était des caravanes souvent qui voyageaient. Alors, ils sont convaincus qu'ils se sont entendus ou quelque chose comme ça avec des amis et que Jésus est en train de voyager avec une autre famille qui est dans la caravane un peu plus loin. Je vous le dis, ça aurait pu nous arriver avec Bastien n'importe quand. N'importe quand. Esther, il est où, Bastien? Bastien, mais je pense qu'il est avec les chaperons. T'es pas mal sûr? Oui, je suis pas mal sûr. OK, on y va, on prend la route. N'importe quand. Un petit peu plus loin dans la route, il croise, je sais pas, moi, André, Nathalie. Bastien est avec vous, hein? Bastien, non? 3 jours. 3 jours! Avant de le retrouver. Ils sont dans la ville, tout ça, puis à un moment donné, ils entendent dans l'intercom, les parents de Jésus de Nazareth sont demandés au temple. Maintenant, il faut que vous compreniez que Bastien n'aurait jamais été au temple après 3 jours. Peut-être qu'il aurait pleuré un peu, mais je veux dire, après ça, c'est « Hey, j'ai Jérusalem à explorer, come on! » 12 ans! Tu ne restes pas au temple! Il y a des choses à faire dans une ville comme ça. D'abord, il faut que tu trouves de la nourriture, il faut que tu explores. Non! Mais ils reviennent, puis Jésus est au temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Et les docteurs de la loi sont impressionnés par les choses qu'ils étaient en train de dire. Luc nous dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il est précoce un petit peu. Non? Ça, c'est des docteurs. Ils ont passé leur vie à étudier la parole et ils sont émerveillés, impressionnés par cet homme-là. Alors, je reviens à Nazareth. Les gens du village avaient plus de raison que quiconque en Israël de rendre témoignage. Eux auraient dû témoigner et dire, c'est vrai, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, c'est le Messie que nous attendions. On peut vous le dire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici avec lui. Ils auraient dû croire en Jésus. Ils auraient dû croire en lui. Et pourtant, Matthieu est obligé de faire un constat tellement triste, tellement pathétique. Matthieu nous dit, il était pour eux une occasion de chute. Ils étaient troublés, ils étaient émerveillés, mais il était pour eux une occasion de chute. C'est un petit peu comme les docteurs de la loi, vous vous rappelez au chapitre 12, lorsque Jésus fait des miracles, la foule est émerveillée. Waouh, fait des miracles. Les docteurs de la loi, qu'est-ce qu'ils disent? Oh oui, il fait des miracles, c'est vrai, c'est hot, mais il fait ça par la puissance du diable. Un petit peu de la même manière. C'est incroyable comme nous sommes Thomas. C'est incroyable comme nous sommes incrédules, durs à croire. Nous sommes incrédules, tout le monde, tous, chacun d'entre nous. Avant la conversion, avant de croire en Jésus-Christ, celui qui ne connaît pas personnellement Jésus-Christ peut avoir de la difficulté à croire en Dieu, à croire en Jésus, que cet homme est venu parmi les hommes pour le sauver, pour sauver son âme. Et il y a de l'incrédulité qui est là. Mais une fois qu'on est chrétien, une fois que tu crois en Jésus-Christ, quand tu vis de l'insécurité, quand tu vis des peurs, quand t'es pogné à l'intérieur par toutes sortes de craintes, toutes sortes de doutes, toutes sortes d'inquiétudes, c'est la même chose qui se passe. J'ai reconnu en Jésus-Christ mon sauveur personnel. Je ne suis pas certain qu'il est capable de sauver ma job. Il est capable de me préparer une place au ciel. Je ne suis pas sûr qu'il est capable de s'occuper de moi sur la terre. Est-ce que vous voyez notre incrédulité? C'est la même chose. C'est la même chose. Quand je m'en vais dans la vie, puis mes petits-enfants partent pour l'école, puis là, je lis le journal, puis j'entends toutes sortes d'histoires, puis là, je suis pris d'inquiétude. C'est la même chose qui se passe là. J'ai cru en Dieu, j'ai de la difficulté à croire en Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ, j'ai de la difficulté à croire en Jésus-Christ. Je m'inquiète pour mon avenir, je m'inquiète pour mon travail, je m'inquiète pour que Dieu me trouve un conjoint, une conjointe, une épouse, un époux. Je m'inquiète pour ma santé, je m'inquiète pour un paquet d'affaires. C'est la même chose qui se passe. Nous sommes Thomas et c'est difficile pour nous de croire. C'est tellement difficile de croire. Et pourtant, Dieu prend tous les moyens pour nous donner une chance de croire. Il prend tous les outils pour se rendre jusqu'à nous. Et quand un chrétien est rongé par l'inquiétude, c'est une forme d'incrédulité de la même manière que celui qui a de la difficulté à croire que Jésus a pu mourir sur la croix pour ses péchés. Nous sommes incrédules. Maintenant, dans le passage ici, il y a quelque chose de plus que ça. Écoutez bien ça. J'oserais dire qu'il n'y a pas seulement un manque de foi ici, mais il y a de la mauvaise foi. Est-ce que vous êtes d'accord? J'oserais dire qu'il y a ici pas seulement un manque de foi. C'est pas juste « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». C'est pas seulement ça ici. Il y a aussi de la mauvaise foi qui est manifestée chez ces gens. Les gens de Nazareth font preuve de mauvaise foi, comme les docteurs de la loi avaient fait preuve de mauvaise foi. Et il me semble que ces gens de Nazareth dans ce village-là représente très bien à quel point on peut être incrédule, mais souvent d'une incrédulité crasse. C'est pas juste « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». C'est plus que ça. Il y a aussi souvent de la mauvaise foi. Écoutez, Dieu veut entrer en relation avec l'humanité. D'accord? Toutes les Écritures, là, prenez toute votre Bible au complet de A à Z, Genèse, Apocalypse, tout au complet. En gros, l'histoire que la Bible raconte, l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut, tout ça, c'est l'histoire d'un Dieu qui veut entrer en relation avec ses créatures. C'est l'histoire d'un Dieu qui veut être ami des hommes. C'est l'histoire d'un Dieu qui veut vivre une relation d'intimité avec nous. C'est ça l'histoire de la Bible, en gros. On pourrait le résumer comme ça, non? En gros, c'est ça. L'histoire d'un Dieu qui vient vers les hommes. Maintenant, ce Dieu-là est esprit. Alors, ça reste un petit peu intangible pour nous, ça peut être abstrait, c'est difficile à croire, c'est difficile à saisir. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, OK, peut-être, c'est abstrait pour vous. On va être un peu plus concret. Dieu nous connaît, c'est comme s'il nous avait tricoté. Alors, il décide de venir vers nous. Il décide de venir vivre parmi nous. Il va s'incarner, il va mettre de la chair et des os autour de cet esprit. C'est ça qui se passe. Il vient marcher parmi nous parce qu'il sait que nous sommes incrédules, difficiles à croire pour nous quand c'est trop abstrait. Alors, il vient marcher parmi nous, il vient vivre parmi nous, il vient sur la terre, il vit parmi les hommes. Il vit parmi les hommes et il laisse une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité afin que tous sachent sur la terre qu'il y a un avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ce personnage historique a vécu. Dieu parmi les hommes a vécu. Et il y a un avant, il y a un après. Il laisse une marque qui est venue bouleverser toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Afin qu'on puisse saisir cela. Maintenant, quand tu racontes ça pour la première fois à quelqu'un, souvent, la réaction qu'on a, c'est Dieu est devenu un homme. Un petit peu weird, ton affaire. Dieu, OK. Mais Dieu est un homme? C'est bizarre. C'est flyé. Ça tient pas. J'ai de la difficulté à le croire. Matthieu nous dit, il était pour eux une occasion de chute. Celui qui venait pour les sauver, celui qui est venu les rencontrer, celui qui est venu pour leur donner une vie abondante, leur Messie, ça faisait des siècles. Pensez-y, vous êtes à Nazareth, ça fait des siècles que vous attendez après un Messie. Vous avez des histoires que vos parents, vos arrière-grands-parents ont racontées, qui disent que ce Dieu-là existe, il est merveilleux, il a fait des belles choses dans le passé, et un jour, il va venir marcher parmi nous comme un Messie, comme un sauveur. Vous êtes en Israël, c'est l'occupation romaine. Tout ce que vous attendez, c'est une libération. Et là, il vient parmi vous. Il parle comme aucun prophète a parlé. Tout le monde dit, « Wow! Quelle sagesse incroyable! » Il fait des miracles comme aucun autre prophète avant a fait des miracles semblables. Ça fait des siècles que vous l'attendez. Et là, la réponse, c'est quoi? C'est trop simple. C'est trop concret, là. Un être humain, dans mon village... Trop concret, trop facile à croire. Tellement facile à croire que ça devient difficile à croire. Alors, qu'est-ce que les gens de Nazareth auraient voulu que Jésus fasse? Honnêtement, quand on lit toutes les Écritures, Dieu a essayé à peu près toutes les méthodes. Hein? Il manque juste le spectacle de claquettes. Sérieusement, quand on lit toutes les Écritures, Dieu a essayé tout. Même parler à travers un âne. N'importe quoi. Qu'est-ce que les gens de Nazareth auraient voulu pour pouvoir croire à ce moment-ci? Et j'insiste là-dessus parce que je veux juste illustrer le fait que nous faisons preuve souvent comme êtres humains de mauvaise foi. Ce n'est pas juste un manque de foi, c'est aussi de la mauvaise foi. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient voulu? Ils auraient voulu que Jésus arrive de Jérusalem, évidemment. Le libérateur qui vient de Jérusalem en Mercedes-Benz. Moi, je pense que non. Je pense que là, il aurait dit, on a de la difficulté à s'identifier avec lui. Il ne vient pas de notre classe sociale. Bon, mais qu'est-ce qu'ils auraient voulu? Ils auraient voulu qu'ils descendent du ciel avec des ailes dans le dos. Je pense que là, ce qu'on aurait entendu, c'est il ne nous comprend pas. Il ne nous comprend pas. On ne peut pas s'identifier avec lui. Et lorsqu'on lit tout le livre de l'Ancien Testament, et lorsqu'on lit les Évangiles, c'est ça qu'on rencontre. Dieu a beau s'y prendre de toutes les manières possibles. Quand tu ne veux pas croire, tu ne croiras pas. On le vit dans nos relations humaines, dans nos rapports humains. Tu essaies d'avoir une relation avec quelqu'un. Si la personne ne veut pas, tu as beau faire toutes les preuves d'amour que tu veux. Si elle ne veut pas croire, elle ne croira pas. On le vit dans nos rapports humains. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il naît dans un petit village poussiéreux, pas trop loin, près de leur réalité. C'est un gars ordinaire. C'est un gars de la construction. Un gars comme tout le monde. C'est correct, la construction, Bruno. Semblable à tout le monde, ordinaire, il a été élevé avec eux, il a été élevé dans le village, puis là, tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui se passe. Au moment donné, au signal donné de Dieu, wow, cette fleur-là commence à éclore. Là, il y a des choses qui sortent de sa bouche qui sont extraordinaires. Personne n'avait attendu cela, personne ne pouvait s'en douter. Il atteste, il donne toutes les preuves, il fait des miracles. Tout est là pour croire, tout est là pour ouvrir son cœur, pour pouvoir comprendre. Et finalement, il va faire quelque chose qu'aucun autre chef religieux a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Emmanuel va aller mourir sur la croix. Personne n'a jamais fait ça. Aucun chef religieux a fait ça. Mais là, c'est trop simple. C'est trop humain. Il vient du quartier. Un petit gars qu'on a connu, ça ne se peut pas. Transposer ça en 2008, tu es en train de me dire que le sauveur du monde viendrait d'un petit pays, gros comme ça, au Moyen-Orient, puis là, 2000 ans, chez les Juifs, puis ça, c'est le sauveur de toute la terre. Trop simple. Trop simple pour que je croie en ça. Alors, voyez, on ne s'en sort pas, hein? S'il est esprit, il est distant. S'il est homme, c'est trop simple. Il y a vraiment un élément de mauvaise foi qui est présent ici. Et Matthieu nous dit qu'il était pour eux une occasion de chute. Dieu est venu vers nous pour nous parler. C'était abstrait pour nous. Il l'a fait en s'incarnant, en devenant homme. Est-ce que Jésus de Nazareth est pour toi une occasion de chute? Le christianisme est trop simple. Tu sens le besoin d'aller voir ailleurs. Le christianisme était dans ta cour arrière parce qu'on l'a entendu au Québec pendant des siècles. Fait que ça ne peut pas être vrai, ça vient de chez nous. Et il y a de ça dans l'air du temps au Québec. Les gens veulent aller vers des religions orientales puis aller découvrir des choses. Soit dit en passant, ça a l'air pas mal du Moyen-Orient, ça, là. Mais donc, c'est quand même assez oriental. Mais c'est cette idée, parce que tant de gens ont cru à ça au Québec pendant des années, ça ne peut pas être vrai. C'est trop simple. Puis un Dieu qui serait venu mourir sur une croix pour nous parce qu'il nous aime, c'est trop simple cette affaire-là. Est-ce que Jésus de Nazareth est pour toi une occasion de chute? Tes parents y croyaient, fait que tu ne peux pas y croire. C'est drôle, hein, mais je veux dire, on fait ça. C'est correct, c'est vrai, tu as un choix à faire pour toi-même. Mais est-ce que Jésus de Nazareth est pour toi une occasion de chute, comme il était pour eux une occasion de chute? Est-ce que Jésus de Nazareth, c'est trop simple pour que tu croies? Ou est-ce que c'est trop flyé pour que tu croies? On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, pourtant Dieu est venu vers nous. Dieu est venu vers nous pour nous rencontrer. Ce que Dieu désire avec chacun de nous, c'est une relation. Une des choses les plus abominables qui s'est passée dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'à travers des gestes posés par des religions, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, on a communiqué aux hommes que le christianisme, ça s'imposait en travers de la gorge. D'accord? Si vous lisez l'histoire de l'humanité, l'histoire du christianisme, on a dit, au nom de Jésus-Christ, que le christianisme, ça s'impose en travers de la gorge. Complètement faux. Le christianisme, c'est une relation. Et jamais, jamais, jamais Dieu va imposer cette relation. Jésus-Christ ne le fera jamais. Parce que ce qu'il désire, c'est une relation avec nous. Et une relation, ça ne s'impose pas, ça se choisit. Une relation, ça ne s'impose pas, ça se choisit. V'là un peu plus de 16 ans, j'ai invité une jeune femme au restaurant. Je savais qu'elle avait un œil sur moi. Elle savait que j'avais un œil sur elle. Ça faisait un bout de temps qu'on se zyotait. À un moment donné, je me souviens, je pense que c'était un soir que je t'ai téléphoné. Esther, mon épouse. Je l'ai téléphoné et j'ai dit, Esther, on irait-tu manger au restaurant ça? Elle savait où je m'en allais avec ça, là. C'était pas très subtil. Ça faisait un bout de temps que je la regardais, ça faisait un bout de temps qu'elle me regardait. Mais là, je me suis manifesté. Je me suis ouvert. J'ai dévoilé mon jeu au grand jour. Je l'ai invité au restaurant. Là, j'ai dit, ben, tu sais, toi et moi, ça serait le fun, hein, qu'on développe une relation, tu sais. Je me suis manifesté. Je suis allé vers elle. Je voulais une relation. Je ne pouvais pas l'imposer. Hein? Esther avait juste à dire une chose. Non. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ça aurait été mal me connaître, d'accord? Je suis un petit peu plus persévérant que ça. Non maintenant, peut-être oui demain, OK? Et si vous lisez, si vous connaissez les Écritures, vous savez que c'est l'histoire de Dieu avec l'homme aussi. Non? OK, peut-être demain. Non? OK, peut-être demain. Et c'est pour ça que l'histoire n'est pas finie encore. Hein? C'est pour ça qu'on attend encore son retour. C'est parce qu'il est patient. C'est parce qu'il nous appelle encore, malgré tous les noms. Alors peut-être j'aurais persévéré un petit peu plus, mais j'aurais pas pu l'imposer, cette relation-là. C'est une relation que je voulais avec Esther. Et heureusement, elle a dit oui. Il y a des fruits qui sont sortis de cette belle relation-là. Des petits bambinos. Matthieu nous montre dans ce passage-là. Matthieu nous montre dans ce passage-là que Dieu n'imposera jamais la relation. Jésus-Christ désire cette relation avec toi. Il désire t'offrir une vie abondante. Il désire que tu viennes à lui. Mais jamais il ne va imposer cette relation avec lui. Parce que le christianisme ne s'impose pas. Et regardez bien qu'est-ce qui se passe au verset 58. Si tu refuses cette relation personnelle avec Jésus-Christ, il va se retirer, il va l'accepter. Verset 58, Matthieu nous dit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Si tu refuses de croire en lui, de croire en ce qu'il veut t'apporter comme relation, à ce qu'il veut apporter dans ta vie, il va le respecter et il va se retirer. Il ne va pas forcer les choses. Et c'est intéressant parce qu'au verset 58, il est dit, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Voyez-vous, Jésus faisait des miracles, c'est vrai. Mais Jésus, ce n'était pas David Copperfield, okay, ou Chris Angel. Ces gars-là sont là pour faire un spectacle. C'est un show qu'ils sont en train de faire. Et puis lorsque tu vas les voir, tu fais un show, qu'est-ce qu'ils veulent? Les applaudissements, c'est leur gagne-pain. Ils veulent que t'aies, que t'apprécies le show, que tu sois un fan d'eux, mais ça s'arrête là. Ils veulent aucune relation personnelle avec toi. C'est un show, c'est leur gagne-pain. Jésus, c'était pas un show qu'il faisait avec ces miracles-là. Jésus faisait pas ça, premièrement, pour qu'on l'applaudisse, puis on dit « Wow, il est fort! » Je reviens à ma relation avec Esther. Quand je suis allé vers Esther, puis que je lui ai fait la cour, quand j'arrivais avec mes fleurs, là, c'était pas pour qu'elle applaudisse. Oh, c'est fort! C'est pas ça que je cherchais. C'est sûr que je voulais l'impressionner, on est d'accord? Mais je voulais l'impressionner pour qu'elle dise sais-tu que. Peut-être que. Ouais, charmant, le bonhomme. C'est ça que Jésus est en train de faire avec les miracles. Il est en train de nous dire regarde ce que j'ai à t'offrir. Regarde la relation que je veux avoir avec toi. Regarde la vie abondante que je pourrais te donner. Si je suis capable de faire un miracle dans ta vie par-ci, par-là, est-ce que je pourrais pas faire pas mal plus que ça dans ta vie? Est-ce que tu gagnerais pas à avoir une relation personnelle avec moi? C'est exactement ça que Jésus est en train de faire avec ses miracles. C'était pas un show, c'était pas un spectacle. Tous les miracles qu'il faisait, c'était pour qu'on le découvre, qu'on puisse découvrir enfin, c'est lui. C'est Dieu qui est venu parmi les hommes, aussi difficile que c'est à croire, aussi dur que c'est à avaler. C'est vrai, regarde, il en donne la preuve, il est sincère, il est là, il veut une relation avec moi. Et c'était ça les miracles ici. Mais Jésus ne s'obstinera pas avec nous, il ne s'imposera pas. Et si je refuse la relation, il va se retirer. C'est ce qu'il va faire. Et c'est ça qui s'est passé ici à Nazareth. Remarquez qu'il n'a pas dit son dernier mot. On sait dans l'Évangile que les frères, les sœurs, la famille de Jésus avaient de la difficulté à croire en lui. Puis pourtant, plus tard, deux de ses frères vont devenir des dirigeants de l'Église. Alors Jésus n'a jamais dit son dernier mot, même si tu dis non aujourd'hui. Alors son amour et sa patience est beaucoup plus grande que ça. Mais Jésus va se retirer, il ne forcera pas. Pourtant, Jésus venait leur offrir, pas un miracle par-ci, par-là, une petite prière qu'on lance, puis tchoup, tchoup, tchoup. Beaucoup plus que ça. La vie éternelle, une vie abondante, pas juste des petits miracles. Jésus venait leur offrir la vie, la paix du cœur, la paix de savoir que Dieu veille sur moi, la paix de savoir que toutes les niaiseries que j'ai pu faire dans ma vie, tous les péchés que j'ai pu commettre, peuvent être pardonnés, effacés, qu'on peut partir à zéro, recommencer. Recommencer à neuf, malgré tout ce que j'ai pu faire comme niaiserie. la paix de savoir qu'il veille sur moi, la paix de savoir que demain est inconnu, mais à lui c'est connu. Et parce que je l'aime, parce que je lui ai confié ma vie, il prépare de bonnes choses pour moi. Il veille sur moi. Il est au contrôle de tout ce que je ne peux pas contrôler. C'est ça qu'il est venu nous offrir. Et c'est ça qu'il était venu offrir aux gens de Nazareth. Une relation, une communion qui allait perdurer dans l'éternité, qui allait continuer. Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, écoutez cela, c'est tellement rassurant. Et à tous ceux qui ont cru, ça fait du bien d'entendre ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. C'est Emmanuel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le cœur de ce Dieu incarné, ce Dieu homme qui est allé à Nazareth, qui venait vers les gens de son village et qui leur disait, « J'ai de beaux projets pour vous. Je sais que c'est dur de croire, mais je viens vers vous. Ça va être simple, je suis là, là au milieu de vous. Là. Écoutez-moi, je parle, c'est la parole de Dieu. Je fais des miracles, c'est Dieu qui vient vous rencontrer. J'ai des beaux projets pour vous. Est-ce que vous voulez? » Est-ce que vous voulez la relation? Mais il ne la forcera pas, cette relation-là. Jamais. Parce que le christianisme ne s'impose pas, ne se force pas. C'est un choix personnel. Mes enfants ont ce choix-là à faire. J'ai beau pleurer devant eux, j'ai beau leur dire combien Jésus les aime, j'ai beau leur raconter les histoires un million de fois, ils ont un choix à faire. La semaine prochaine, il va y avoir 4 baptêmes. Ce sont des personnes qui ont accepté l'invitation de Jésus. C'est ça. Vous voulez un résumé de tout ce qu'ils vont dire la semaine prochaine? C'est ça. J'ai accepté. J'ai accepté de croire. J'ai accepté qu'il entre dans ma vie. J'ai accepté la relation avec lui. J'ai accepté d'entrer en communion avec lui. C'est une invitation qui vous est lancée de la part de Jésus. Maintenant, remarquez bien ici. Et là, j'aimerais ça m'adresser aux chrétiens. Un instant. C'est tellement facile pour nous de lire un passage comme celui-là et dire, Yannick vient de prêcher l'Évangile à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est juste une partie du message. C'est tellement facile pour nous de dire, ah, oh, Yannick, c'est le fun, là, tu nous as repassé des vieilles histoires, Jésus veut devenir mon sauveur, il est mon sauveur. Tout est beau. C'était pas pour moi le message ce matin. Ce n'est pas vrai. L'invitation que Jésus est allé lancer aux gens de Nazareth pour croire en lui comme un sauveur, il la lance à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Il y a un texte que nous citons souvent en partageant l'Évangile dans Apocalypse 3. Ce n'est pas adressé à des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. C'est adressé à l'Église, à des chrétiens. Je vais vous le lire. Faites juste écouter Apocalypse 3, 14. C'est Jésus qui parle ici, qui s'adresse à l'Église qui est dans la ville de Laodicée. Écrit à l'ange de Laodicée, de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mes amis, Dieu est venu vers nous. Dieu n'est pas resté abstrait et invisible, intangible pour nous. Dieu est venu vers nous de manière très concrète et très humaine. Il est venu marcher parmi les hommes. Il est venu rire avec les hommes, pleurer avec les hommes, manger avec nous, mourir comme un homme, et plus qu'un homme, pour nous. Parce qu'il désire cette relation avec nous, cette intimité avec nous. Son invitation, il la lance aux hommes depuis des millénaires. Il l'a écrit dans une lettre, il est venu le vivre parmi nous. Il porte ce message à travers nous, aux hommes, aux femmes, partout autour de nous. Et son esprit vient le dire à nos cœurs, constamment. Dieu désire cette communion, cette intimité avec nous. Mais il ne s'imposera jamais à nous. Il n'imposera jamais cette relation. Ma réponse, je dois la prononcer tous les jours de ma vie. Je dois choisir un jour que Jésus-Christ est mon sauveur personnel et que je comprends qu'il est venu mourir sur cette croix pour mes péchés comme un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient en abondance. Il est venu nous offrir la paix, le repos, la joie, l'espérance dans le désespoir, la sécurité de savoir qu'il veille sur nous. Il est venu nous garantir un jour de paix où nous entrerons, comme Pamela l'a si bien dit tantôt, un jour de paix où nous entrerons dans sa présence. Et toutes ces souffrances et tous les maux de cette vie disparaîtront, toutes les larmes seront essuyées. Et la paix sera là entière dans notre cœur. C'est ce qu'il est venu nous offrir. Mais jamais il va le forcer. Jamais il va le forcer. Mais il nous attend. Il t'attend le matin lorsque tu te lèves le dimanche matin et que tu t'en viens à l'église. Il attend de ton cœur juste que tu ouvres la porte. Et lorsque tu viens ici, puis tu entends les louanges, puis tu dis, « Seigneur, je vais me joindre à cette chorale de louanges parce que je veux te dire que je t'aime, Seigneur. » Tu ouvres la porte de ton cœur, c'est ça que tu fais à ce moment-là. « Oui, mais Seigneur, je suis indigne. Tu connais ma semaine, Seigneur, je n'étais pas à la hauteur. » Ça fait 2000 ans qu'il fait les premiers pas, il va les faire encore. Seigneur, je me cache derrière ta grâce, derrière ton pardon. Chaque fois que je me suis rapproché de Dieu, personnellement, Yannick Étier, c'est parce qu'il a fait les premiers pas vers moi. Chaque fois. Alors, tout ce qu'il attend, c'est que tu ouvres la porte en venant pour louer le Seigneur le dimanche matin. Il attend que tu ailles vers lui. Venez à moi après ta journée de travail, la journée fatigante, elle est éreintante. Il y avait du stress, il y avait de l'épuisement. Qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ferme la radio dans l'auto. Fais juste fermer la radio dans l'auto. T'es pris dans le trafic. C'est un rendez-vous divin. Ça vient pas du diable, le trafic, là. C'est un rendez-vous divin. C'est la seule fois, peut-être, que tu vas t'arrêter avec Dieu dans ta journée. Ferme la radio. Et prends le temps de lui parler. Ah, Seigneur. Tellement de soucis, tellement de stress, tellement de pression, Seigneur, tellement de responsabilités. Je m'en viens te les laisser, Seigneur. Juste les déposer à tes pieds. Telle personne au travail, telle situation, Seigneur, je ne sais pas comment m'y prendre avec lui, je ne sais pas comment tourner la situation, je ne sais pas comment l'aimer, je ne sais pas comment présenter l'autre joue, Seigneur. Viens me montrer comment le faire, simplement m'arrêter. Quand j'arrive dans l'entrée, dans l'entrée de ma maison, simplement arrêter le moteur, puis prendre 10 minutes avant d'entrer. Une pause, un moment, sur mon chantier de construction, il n'y a personne qui t'écoute, commence à chanter au Seigneur. À louer le Seigneur, à bénir le Seigneur. À la fin de la journée, quand je suis fatigué, puis j'ai décidé que c'était mon 30 minutes de décrochage devant la télé afin de... On a toute une théologie du repos qui est étrange. Hein? C'est ça le repos. Non, non, non. Attends, tu vas allumer les nouvelles. C'est pas sûr que tu vas te reposer. C'est pas sûr du tout que tu vas te reposer. Avant de les allumer, prends donc 10 minutes. 10 minutes avec Dieu. Il t'attend. Ouvre la parole. Prends le temps de l'écouter, de parler à travers les Écritures. Il t'attend. Tu te trouves trop indigne pour le faire? Il a toujours fait les premiers pas. Il est comme cet amoureux qui attend simplement que tu viennes chanter un chant de louange. Que tu viennes et que tu dises, « Excuse-moi, je t'ai négligé depuis un bout de temps. » C'est tout ce qu'il attend. On va prier ensemble. Seigneur, je veux te bénir de ce que tu connais ma faiblesse et t'as rendu les choses tellement plus concrètes pour moi en venant vivre parmi nous, Seigneur. J'avoue, Seigneur, que j'aime lire les évangiles et t'écouter parler, voir comment tu réagissais. J'aime ça te voir pleurer sur Lazare. J'aime voir, Seigneur, ton humanité. J'aime voir, Seigneur, ta sensibilité. Et j'aime entendre, Seigneur, que tu m'attends, que tu es venu vers nous et que tu veux cette relation. Je veux te demander pardon, Seigneur, de ce que cette relation n'est pas toujours la priorité dans ma vie. Je veux te demander pardon, Seigneur, de te traiter comme une espèce de guichet automatique, trop souvent, te demandant un miracle par-ci, par-là, me satisfaisant d'une relation superficielle. Pardonne-moi, Seigneur. J'ouvre la porte ce matin, Seigneur. Moi, Yannick Étier, j'ouvre la porte, Seigneur. Viens et entre chez moi. Entre dans mon cœur. Apporte la paix. Apporte le repos devant tout le stress de cette vie, Seigneur. Dis-moi tendrement à l'oreille que tu prends soin de moi, que tu veilles sur moi, que tu as de bons projets pour moi. C'est en Jésus que je te prie. Amen.